Mais d'abord, on s'en va rejoindre l'ami Luc. Bonjour.
Salut, Bernard.
Puis, mon Luc, où est-ce que tu en es, toi, dans tes élucubrations?
Dans mes élucubrations? hein? Aujourd'hui, on parle de COVID, Bernard. Pour faire changement aujourd'hui, c'est très original comme sujet.
Oui.
On n'a pas parlé depuis 14 mois. Enfin.
Oui.
Non, mais c'est moins drôle. Là. C'est que le bilan officiel au Canada des décès, on a franchi la barre des 25 000 morts depuis le début de la pandémie il y a 14 mois.
OK.
Le Canada avait dépassé les 20 000 décès à la fin de janvier. Alors, 25 000 décès, si on fait une comparaison avec les États-Unis, tu multiplies normalement, non, à l'échelle du Canada, tu multiplies par 10, plus ou moins, puis ça te dit qu'aux États-Unis, ils en ont deux fois plus qu'ici, c'est ça que ça nous dit. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que 6 Canadiens sur 10 000 sont morts de la COVID depuis le 9 mars 2020.
OK.
Et c'est chez les Canadiens les plus âgés que le bilan de la pandémie a été le plus lourd. 4 personnes décédées sur 5 avaient plus de 70 ans. Et près de 3 sur 5 résidaient dans un foyer de soins de longue durée.
Tu dis qu'en pourcentage de notre population, c'est deux fois moins que les États-Unis, mais à l'échelle internationale...
Dix fois moins.
Dix fois moins?
Non, ce que je veux dire, Bernard, deux fois moins. Oui, t'as raison.
Oui, pourcentage de la population, d'accord. C'est deux fois moins. Mais au niveau international, on se classe où, le Canada, nous autres?
Ben là, on se classait... Avec 6,6 décès par 10 000 habitants, on se classait au 64e rang mondial. Donc, on n'est pas si pire. On est loin de pays comme l'Inde, comme le Brésil, et comme plusieurs, l'Italie, l'Espagne, on est loin de ça.
D'accord.
On n'a pas fait une si mauvaise job, après tout.
Bon.
Et là, je suis heureux de dire pour mes amis ontariens
qu'ils
ont recensé le plus faible nombre de nouvelles infections depuis près de 2 mois. Les hospitalisations augmentent. Mmh. On confirme aujourd'hui 1616 nouveaux cas. Il n'y a pas si longtemps, Bernard, qu'on parlait de 3000, puis ainsi de suite.
Ouais.
Il faut le dire que c'est la première fois depuis le 24 mars que la province recense moins de 2000 nouvelles infections en une journée.
Bon, mais on est content pour eux autres.
Ah oui, puis ils semblent reprendre le contrôle. Là. Puis leur campagne de vaccination qui avait démarré un peu tout croche, franchement, là. Mais là, ça va à vitesse grand V. Là. Ils sont rendus qu'ils sont dans le 20, 20, 130, 140 000 chaque jour.
Bon.
Alors, les choses vont aller en s'améliorant.
Excellent.
Et au Québec, on a atteint notre objectif. Hein. Ce matin, le premier ministre Legault disait dans un tweet, « On s'approche enfin de notre liberté. Merci de faire la différence. » Et c'était au moment où il annonçait que l'objectif de 75 % des adultes québécois qui ont reçu une première dose ou pris rendez-vous pour se faire a finalement été atteint le jour même où le Québec va présenter son plan de déconfinement. Donc, c'est une formidable réussite pour le ministère de la Santé, pour le gouvernement de M. Legault, parce que...
Et pour nous tous.
Bien sûr, Bernard, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait fixé un objectif au 24 juin.
Oui.
C'est clair qu'on va non seulement l'atteindre, mais qu'on va faire nettement mieux, ce qui va permettre plus de souplesse dans la façon dont on va passer à la période des deuxièmes doses.
Oui, puis j'imagine qu'une partie du déconfinement qu'ils vont nous annoncer à 17h, c'est aussi le résultat, c'est une forme de récompense pour nos bons efforts. Écoute, Luc, tu as raison de le souligner. On est le 18 mai aujourd'hui, on atteint l'objectif. Bon, ils sont pas encore vaccinés, il faut faire attention. C'est 75% des adultes vaccinés et qui ont pris un rendez-vous.
Et qui ont pris un rendez-vous. Bon, c'est une nouvelle au début juin, ça.
C'est ça. Alors, on va atteindre notre objectif quand même avant... Peut-être, quoi, 2 semaines avant, on verra, là, quand les 75...
Deux à trois semaines.
Écoute, toi qui es... puis je t'en fais pas le reproche. Toi qui es parfois un peu déçu, sinon très critique, de la performance de la machine étatique, dans ce cas-ci, la machine vaccinale, elle t'a comblé de bonheur.
Et là-dessus, j'ai jamais dit le contraire. Sauf au début, ça avait été là, mais c'était pas vraiment leur faute. Il y avait un problème d'approvisionnement qui était majeur. Mais là, ce problème-là étant réglé, je veux dire, la machine qu'ils ont mise en place, la façon qu'elle fonctionne, les réactions qu'ont les gens qui se rendent sur les lieux, tout ça concorde à dire que c'est une remarquable réussite. Probablement sur le plan logistique, quelque chose d'unique dans l'histoire du Québec.
C'est super.
C'est vraiment... C'est, 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 Écoute, on dit que tu prends juste les 7 derniers jours, là, 610 000 Québécois qui ont été vaccinés dans les 7 derniers jours. C'est quand même, hein, puis bon. Et quant au vaccin, ben, pour le mois de juillet seulement, c'est un total d'environ 9 millions de doses du vaccin de Pfizer qui est attendu au Canada, a annoncé le premier ministre Trudeau. Alors lui, il a sa petite spin, là, ses clauses, ses doses vont contribuer à maintenir le Canada pour tous les Canadiens et les Canadiennes, nous maintenir dans les premiers pays du G20 en matière de vaccination quotidienne.
C'est moi qui faisais ça, les Canadiens.
Les Canadiens et les Canadiens.
Là, tu me traiterais de séparatiste. Puis tu...
mais là, tu l'es.
Mais là, je me ferme la boîte, je te laisse aller parce que tu fais bien ça. mais t'es un... Justin, toi, là, on n'a pas parlé de ça encore.
Ouais.
Tu vas-tu voter pour lui ou prochaine?
Oh
boy! Il n'est pas sûr, hein?
Oh, regarde! Vraiment, pour la. D'abord, je ne peux pas voter pour le Bloc. Ça, c'est clair.
Non, c'est pas c'est des
séparatistes. Le NPD, je les trouve. Non, ça ne me répond pas du tout à ce que j'attends.
Oui.
Normalement, j'aboutirais chez les conservateurs, mais je veux dire, Aaron O'Toole, là, ouf, que ça me rassure pas, ça.
Il t'inspire pas. Ben là, Luc, attends un peu, là. Je t'ai pris comme ça par surprise. Je veux pas te pousser dans un coin, là, puis t'obliger à répondre à une question à laquelle t'es pas prêt de répondre. Continue à y réfléchir un peu, mais je te sens chambranlant. D'habitude, la voix, toi, t'es, si ça vient, c'est raide, c'est clair. Puis là, je te sens, toi,
hésitant.
Tortilleux, tu sais, tortille.
Oui, oui, oui,
bon, OK, d'abord. On va en reparler. On referme cette parenthèse.
Ouais, bon, alors, Trudeau a mentionné. C'est fini, cette affaire-là. On va en attendre dans une seconde, je t'en parle des séparatistes. Trudeau était au courant des allégations contre le général Fortin depuis plusieurs semaines, mais il dit qu'il n'était pas au courant du détail des allégations, qu'il ne peut pas commenter davantage. Entre-temps, le gouvernement l'a remplacé. Ils ont confié les rênes de la mission à la brigadière générale Christa Brody, qui faisait partie de l'équipe du général Fortin.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Elle n'arrive pas au point zéro. Là. Bon. En Europe,
une lente
campagne de vaccination. Bon, 200 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées à environ 148 millions de personnes, soit 33,2% de la population.
Okay.
Il y en a 53 millions qui sont vaccinés entièrement, mais 33,2, c'est très en retard sur des pays comme le nôtre, puis les États-Unis, puis l'Angleterre, puis tout ça. Ça n'a pas été une grande... L'Europe, comme institution, va ressortir assez magané de cette période-là. Ils ont joué un rôle qui n'a pas été très, très efficace.
Non, je suis d'accord avec toi.
Bon, là, je vais sauter l'histoire de l'Eurostar qui a évité la faillite. Là, l'Eurostar là, qui passe sous la Manche, là, le fameux train à grande vitesse qui passe sous la Manche.
Oui.
Il n'y avait plus de clients. Il n'y avait plus d'argent. Là, ils ont sauvé. Ils ont obtenu 250 millions de pounds.
Mm-hmm.
Ça veut dire quoi? Autour de 500 millions canadiens dans ce coin-là? Bon.
Je sais pas, c'est-tu deux pour un? En tout cas.
Pas loin.
Les livres sterling.
Maintenant, Bernard, tout comme les séparatistes, comme toi, tu vas être très déçu.
Très déçu. Pourquoi?
On aurait pu avoir une petite bataille constitutionnelle avec Ottawa.
Une chicane?
Une belle chicane constitutionnelle. Tu sais, il y en a pour qui le mot constitutionnel a des effets quasi aphrodisiaques.
C'est quasiment érotique. Pas pour moi, là.
Alors, pour toi aussi.
Non.
Admets, Bernard. T'aimes ça, ces patentes-là. Alors, Trudeau a dit ce matin que le premier ministre Legault et son gouvernement pouvaient demander la Constitution comme ils ont annoncé à la surprise générale qu'ils allaient le faire dans le cadre de sa réforme de la loi 101. Alors, voici ces paroles du premier ministre du Canada par rapport à la capacité de modifier la Constitution à ce qui a trait à une province en particulier. Ce que nous comprenons par nos analyses initiales, c'est qu'effectivement, le Québec a le droit de modifier une partie de la Constitution, a soutenu le premier ministre. Écoute celle-là, Bernard, celle-là qui suit.
Oui.
Il a souligné que les constats du gouvernement québécois étaient partagés par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire que le Québec constitue une nation et que c'est une province où la langue officielle, c'est le français. Comment tu aimes ça?
J'adore.
Vraiment?
Ben, certain.
Ben, certain. Rien,
hey, j'étais pour le Lac-Meach, moi. Tu fais semblant de l'ignorer. Mais moi, là, j'étais favorable à l'entente du Lac-Meach. Je salue d'ailleurs M. Mulroney qui nous écoute. Et puis moi, j'étais pour le Lac Meech et j'étais très déçu de l'échec du Lac Meech. Et c'est comme ça que j'en suis revenu à un moment donné à me dire, bon, ben là, il y a deux options, soit le statu quo, soit l'indépendance. Mais moi, tout ce qui fait avancer le Québec, Luc, tout ce qui nous permet de mieux protéger notre identité, dans ce cas-ci, notre langue, c'est positif. Moi, j'ai jamais été, Luc, un gars là, qui vous souhaitait la chicane, puis le négatif, puis la destruction pour la destruction. Pas en tout, je suis pas là-dedans, moi.
C'est pas ça que j'ai dit, j'ai juste dit que t'étais séparatiste.
Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux? J'ai mes convictions, mais c'est une bonne chose que M. Trudeau dise, écoutez, le Québec, oui, c'est une nation, puis il a le droit de protéger sa langue. On est la seule entité où le français est encore majoritaire. C'est une bonne chose.
Et ça me permet de te dire, tiens, là, laisse-moi te renverser, Bernard.
Oh, me renverser.
Après avoir lu et relu toutes ces formes, avec tous les commentaires, la réforme de la loi 101 déposée par Legault,
oui?
Bien que je trouve que c'est... Enfin, je trouve que sur le plan politique, ils ont été astucieux, ça n'a pas de bon sens.
Okay.
Vraiment, là, ils ont présenté un package qui a de l'air énorme.
Mm-hmm.
Quand tu regardes dans la pratique, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais il y a un package qui était énorme, puis ils ont trouvé cette entourloupette dans la Constitution. Comme journaliste à Ottawa, moi, j'ai vécu les années de perpétuelles négociations constitutionnelles.
Oui.
Des années et des années.
Oui, oui, oui.
On était là-dedans jusqu'aux oreilles.
Oui.
Puis les pouvoirs subsidiaires, puis les, tout ça, les bébelles, puis la formule d'amendement. J'avais jamais entendu parler que dans la Constitution, les provinces ont une place où ils inscrivent, en quelque sorte, qui ils sont, qui elles sont.
Il y a une place pour une constitution provinciale.
Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé ça brillant comme astuce politique. C'est vraiment brillant. Parce que la bataille sur Meech, ça portait, bon, ça s'appelait société distincte, mais grosso modo, c'était la même idée, là. L'idée que, bon, on le reprend, là, les mêmes constats, le Québec constitue une nation, et c'est une province où la langue officielle, c'est le français.
Ouais.
Écoute, j'ai pas parlé à des constitutionnalistes, là. Puis de toute façon, ils sont jamais d'accord les uns avec les autres. Mais je peux pas croire que c'est sans valeur. Parce que la question de la société distincte, ça devait être dans le préambule de la Constitution. Donc,
exact.
Une clause interprétative.
C'est
qu'on
ça.
Dit.
C'est ça.
Mais celle-là, je le sais pas, Bernard. Quand on écrit ça dans la Constitution, c'est quand même dans le document fédéral que ça va se retrouver, cette affaire-là, là.
Oui, oui, oui.
Hein?
Quand on
écrit ça, là, je peux pas croire que c'est sans portée légale. J'ai pas réussi à éclaircir ça en lisant les textes un peu partout.
Benoît Pelletier, l'ancien ministre libéral dans le cabinet
failli,
de Jean Charest.
Qui a failli mourir de la COVID.
Mais qui s'en est remis. Puis d'ailleurs, je l'ai appelé en fin de semaine pour prendre de ses nouvelles. Puis lui dire à quel point je trouvais qu'il était très constructif et qu'il joue un rôle très intéressant actuellement, que ce soit sur la question de la loi 21 ou que ce soit sur justement cette idée d'inscrire dans la Constitution le fait que le Québec est une nation puis qu'il a le droit de défendre sa langue. Je trouve que vous faites œuvre utile, M. Pelletier, puis bon, je l'ai remercié. Mais Pelletier, il est d'accord. Il est d'accord que cette clause-là pourrait jouer un rôle quand les tribunaux pourraient être appelés, mettons, à se prononcer sur la loi 101 ou sur la nouvelle loi là, sur la langue déposée par Jolin Barrette, ben ça pourrait, cette clause-là pourrait aider le Québec, dans le fond, à défendre ses lois linguistiques. Ça pourrait servir comme, je pense qu'il a dit, clause interprétative, justement, Luc.
Ben Bernard, si c'est le cas, là, cette ligne-là que je viens de lire à deux reprises, c'est plus solide que la société distincte.
Parce que le mot nation est là.
Ben, nation, puis une province où la langue officielle, c'est le français. Ouais. On écrit ça dans la Constitution canadienne.
Ouais. Ah non, mais
alors,
c'est pour
si ça devient une clause interprétative, écoute, ça a un poids qu'on peut pas ignorer.
Non, non.
Et je n'en reviens pas au risque de me répéter que tout le monde qui baignait jusqu'à en avoir la nausée dans la Constitution puis les bébelles.
L'avait pas vu.
On n'a jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça de la part des péquistes, jamais entendu parler de ça de la part des bloquistes, jamais des constitutionnalistes fédéralistes. Je comprends pas qu'on avait jamais vu ça.
Mais vite, les caquistes vont faire de toi un caquiste.
Ah ben là, il y a des limites, là, Bernard. Il y a des limites. Mais je m'incline devant le sens stratégique, devant le sens tactique du gouvernement avec cette réforme de la loi 101.
Oui.
Je trouve que tout ça, c'est assez brillant. Politiquement, là, oui. C'est des gens qui savent jouer aux échecs.
C'est un constitutionnaliste québécois, Patrick Taillon, d'ailleurs, je pense qu'il est le premier à avoir eu cette idée-là et qu'il l'a mis par écrit dans une lettre ouverte. Et Jolin Barrette a vu ça passer, puis bon, de fil en aiguille, ça s'est retrouvé dans son projet de loi. Luc, j'ai les gens de Air France que tu ne voudrais pas faire attendre.
Évidemment
qui sont en
pas.
Ligne, parce qu'eux autres, ils ont un avion dans les airs présentement qui vole avec du biocarburant. Et donc, il va nous expliquer en quoi c'est important. Fait que tu vas écouter ça avec intérêt.
Oui, mais je voulais juste terminer avec une petite phrase. Je l'ai déjà utilisée. C'est parce que je pense qu'elle s'applique à toi. Bernard, il est séparatiste, mais juste au provincial. C'est ça l'affaire. Voilà.
C'est tellement niaiseux ce que tu viens de dire là. Ah ouais, va-t'en. Ah ouais, à maison. Ah ouais, à maison. Salut, salut. Alors, après la pause, on parle au monsieur d'Air France. C'est quoi le biocarburant? Est-ce que il paraît que c'est constitué notamment d'huile à cuisson. Un avion qui vole avec de l'huile à cuisson, mesdames et messieurs, dans un instant.